Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Il est vraiment ressuscité. Nous avons tous besoin de vie, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Tous besoin de vie. Qui serait contre d'avoir une vie meilleure? Personne. Devant la mort, nous avons tous besoin de la vie. Devant la routine, le stress parisien, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'une vie reposante, bienfaisante et réparatrice. Nous avons besoin d'une vie qui a un sens. Devant les tensions relationnelles, nous avons besoin du souffle de la vie. Devant les épreuves de la vie, l'égocentrisme, l'insécurité, nous avons tous besoin du secours de la vie. La vie avec un grand V. La vie, en fait, c'est là le sens même de Pâques. Je pense que vous l'avez compris. Les œufs, les lapins, les poules, le chocolat, on pourrait mettre toute une liste, hein. Ce n'est pas à l'origine de cette fête, même si c'est très intéressant et ça donne faim, n'est-ce pas? Pâques, c'est la vie, la fête de la vie. La vie a triomphé de la mort. La preuve, Jésus-Christ est... Vous êtes là? Il est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Dans la Bible, un homme qui s'appelle Paul a écrit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour. Et il répète comme l'avait annoncé. Il avait annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Fin de citation. Encore aujourd'hui, certains disent que c'est une hallucination de masse ce qui s'est passé ici. C'est du pipeau de croire à la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection n'est qu'une histoire inventée de toutes pièces. Le texte de la Bible que je viens de citer ne fait que nous amener à la conviction que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Premièrement, tout ce que Jésus a vécu, sa mort, sa résurrection, était écrit des siècles avant. Surprenant. Surprenant. Deuxième chose, il y a une foule de témoins qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Il est difficile de soutenir que les témoins vivaient une sorte d'hallucination, puisque lorsque des hommes hallucinent, on est tous d'accord que tous ensemble ne peuvent pas voir la même chose. Ici, ils ont tous vu la même personne ressuscitée, Jésus-Christ. Après sa résurrection, a même enseigné ses disciples pendant plusieurs jours. Ils l'ont entendu, ils ont mangé avec lui, ils ont discuté avec lui. Alors c'est sûr, ce n'était pas une hallucination. On ne le dit pas, plutôt jamais assez, que la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Nous pouvons le savoir, l'examiner, tirer des conclusions à partir de faits. À l'opposé, d'autres religions qui peuvent affirmer des choses peut-être merveilleuses, extraordinaires, surnaturelles, eh bien, quand ils affirment tout cela, ils ne peuvent pas soutenir le côté historique. La foi chrétienne affirme que cet événement miraculeux, la résurrection de Jésus-Christ, est un fait historique. Nous pouvons donc faire appel à la raison pour l'analyser et discerner s'il s'agit ou non de la vérité. Donc nous pouvons affirmer avec force ce matin que Jésus-Christ est... qu'il est bien vivant aujourd'hui parce que cela était écrit des siècles avant et parce qu'il y a une foule de témoins. Nous pouvons aussi ajouter quelque chose de très fort. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont été transformées par l'œuvre de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a plusieurs qui l'ont expérimenté ici, n'est-ce pas? Expérimenté l'amour de Dieu. Mes amis, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Sa résurrection prouve qu'il est celui qu'il disait être. Il est Dieu. Il prouve aussi que la vie éternelle est une réalité. et que ceux qui croient en lui seront ressuscités comme il l'a été. De quoi vraiment nous réjouir, n'est-ce pas? Mais peut-être que pour certains ici, il est vraiment difficile de croire à cela. Alors pas de souci, pas de souci, c'est normal. Même dans la Bible, la même personne qui avait écrit le texte que j'ai cité tout à l'heure a écrit ceci sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que ce message est une folie. Ce message paraît absurde. Alors, tranquille. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous pouvez arriver à une certitude. Vous pouvez rencontrer Dieu. Pour cela, je vous invite à venir à Dieu, à chercher Dieu, non juste par soif de spectacle ou de curiosité, de miracle, mais venez à lui avec un cœur sincère. Et je vous assure, il se révélera à vous. Je parlais tout à l'heure de notre vie, ou plutôt de notre besoin de vie. J'aimerais vous laisser trois choses qui découlent de la résurrection de Jésus-Christ pour notre vie à tous. Voici ce que Jésus-Christ nous offre par sa résurrection. Premièrement, Jésus-Christ nous offre une vie éternelle. Ensuite, il nous offre une vie abondante. Et enfin, il nous offre une vie relationnelle. Vie éternelle. Si vous êtes comme moi devant la mort, vous aspirez à cette vie. Quand un être cher est décédé, c'est tellement horrible. Nous aspirons tous à la vie éternelle. Et nous devons être sûrs d'être du bon côté. Nous avons tous un problème d'insécurité. Plus on observe ce qui se passe dans le monde, et même à notre porte, et plus la peur nous saisit. Combien il est rassurant de savoir où nous irons après la mort. Pas juste se faire une idée, j'entends souvent cela quand je parle à des personnes qui ne veulent pas croire, qui laissent Dieu de côté. Ils disent, quand je mourrai, ça sera un temps de repos éternel. Ah. Mais dire cela n'a pas du tout de fondement. Et nous maintient toujours dans une forte insécurité. Nous avons tous besoin d'être vraiment sûrs de ce qui va se passer après la mort. Et c'est pour moi de la folie de vivre sans chercher à savoir ce qu'il y a après, où je vais. Nous avons tous besoin de cette vie qui ne s'use pas et qui dure pour toujours. La Bible dit que c'est possible et ce qui est formidable, c'est que Dieu peut nous donner la certitude d'avoir la vie éternelle. Dans la Bible, un texte très connu, c'est dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit ceci, « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est question ici d'amour, parce que Jésus-Christ est mort pour toi, pour moi. C'est très fort ce qui s'est passé à la croix. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans l'histoire et puis ça ne me concerne pas. Dieu te regarde et toi. Dieu a manifesté son amour pour toi. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi Jésus-Christ doit-il mourir sur une croix? Pourquoi? Tout simplement à cause du mal que nous avons fait. Désobéissance à la loi de Dieu. Manque d'amour et de respect pour ce Dieu qui nous aime. Ingratitude envers lui qui nous a créés. Et ce qui en découle, c'est un manque d'amour et de respect pour les autres. Orgueil, égoïsme, vivre notre vie sans Dieu, comme s'il n'existait pas. Tout cela nous sépare de Dieu et c'est à cause de nos fautes, à cause de tout cela que nous méritons tous la mort. Mais Dieu nous aime tellement qu'il est venu en la personne de Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité pour nous pardonner de tout le mal que nous lui avons fait. Tout ce mal que nous avons fait en nous détournant de lui et en vivant notre vie sans lui. Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Jésus-Christ nous offre sa résurrection, la vie éternelle. Deuxièmement, Jésus nous offre une vie abondante. Permettez que je vous pose une question. Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Avoir un conjoint? Fonder une famille? Amasser de l'argent, des biens, diriger une entreprise, avoir du succès dans tout ce qu'on fait. Si c'est tout cela, votre vie n'a pas vraiment de sens. Car si un de ces éléments n'est plus, votre vie est fichue. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Et je vois tant de personnes qui s'accrochent à une chose, mais quand cette chose n'est plus, c'est terrible. Il n'y a plus d'espoir pour moi si ma vie a du sens à cause de quelque chose qui en fait ne tient pas, n'est pas solide. Ce qui donne du sens à ma vie, à votre vie, c'est quelque chose qui est vraiment solide et durable. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. C'est-à-dire qu'au fond de toi, de moi, il y a un désir d'infini, de grandeur, d'éternité, de vie. Seul Dieu peut combler ce besoin, ce désir. Notre vie a vraiment du sens quand nous connaissons Dieu et quand nous commençons à vivre notre vie, non sans Dieu, mais avec Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 10, « Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. » Alors, plein de gens qui entendent parler de l'Église, c'est quoi l'Église, vont dire que Jésus, lui, il est venu pour que la vie soit une vie de règles, de devoirs. Ça étouffe notre liberté, ça étouffe notre joie, on ne peut plus vivre, quoi. Jésus a dit qu'il a donné sa vie pour que nous l'ayons une vie, et cette vie en abondance. Ça n'a rien à voir avec ce que beaucoup disent. C'est une vie en abondance, une vie de joie, une vie pleine d'espérance. Une vie où on est de plus en plus épanoui. Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. Et cette vie nous remplit d'assurance pour l'avenir. On a parlé de vie éternelle. Mais elle nous donne des ailes pour vivre dans le présent. J'aime dire ceci, ça va peut-être vous surprendre, mais s'il y a bien des personnes qui devraient jouir encore plus de la vie que les autres, c'est bien ceux qui appartiennent à Dieu. Pourquoi ? Parce que leur vie a un sens. Ils ont la vie éternelle. Ils ont Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, comme Père. Ils vivent une relation avec lui. Ils jouissent de la vie, non sans Dieu, mais avec Dieu. Et cela donne... C'est comme quelqu'un qui vivrait dans une... C'est comme regarder un film en noir et blanc, quoi. Avec un vieux son. Et quelqu'un qui regarderait... Un film avec... Regardez la vie avec des couleurs. Ça n'a rien à voir. Peut-être que l'image est un peu faible par rapport à ce que je veux dire. Mais la vie abondante est une vie marquée, en fait, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Devant cet acte puissant d'amour d'un Dieu qui s'est donné pour moi, je ne cesse de jouir de cet amour et de vivre dans la reconnaissance. Une vie de reconnaissance qui se réjouit chaque jour d'avoir un Dieu qui l'aime. La vie abondante ne veut pas dire que nous n'aurons plus de problèmes, plus de souffrances. Ça serait n'importe quoi de dire cela. Mais dans la peine, Dieu est notre consolateur. Dans l'injustice, il reste celui qui défend notre cause, si on le laisse faire. Dans notre solitude, il demeure notre plénitude. Dans nos erreurs, il ne s'éloigne pas, il est prêt à pardonner, il veut nous relever et nous restaurer. Il reste le berger de notre vie. Dans chaque situation que nous traversons, il est avec nous. Jésus nous offre une vie abondante. Il nous bénit de toute bénédiction spirituelle et on pourra passer du temps pour comprendre ce que cela signifie. Troisièmement, Jésus nous offre une vie relationnelle. Nous vivons tous des tensions relationnelles. Nous luttons contre notre propre égoïsme, notre orgueil. Le tableau est tellement horrible. Divorce, problèmes familiaux, rejet, problèmes d'estime de soi, conflits, guerres. La liste est très longue. Devant toutes les difficultés relationnelles, nous avons besoin du miracle de la vie. Un jour, Jésus a résumé la loi ainsi. Quand je dis la loi, c'est tout ce qui reflète le caractère de Dieu, tout ce que Dieu a voulu pour nous. Il a dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et celui qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le cœur de notre problème relationnel se trouve ici dans ce texte. Nous n'aimons pas Dieu et notre prochain de manière parfaite. Nous luttons tous les jours avec l'égoïsme, l'orgueil. Jésus-Christ est venu pour rétablir notre relation avec lui, avec Dieu lui-même, notre relation avec nous-mêmes et notre relation les uns avec les autres. C'est tellement touchant de savoir cela. La résurrection de Jésus-Christ nous offre une vie relationnelle. Ce n'est pas que d'un jour, pouf, je deviens relationnel. Il y a du chemin à faire et j'ai besoin de changer encore et encore. Je lutte encore avec mon orgueil et mon égoïsme, mais Dieu est avec moi pour changer et transformer ma vie. Et un jour, nous serons totalement transformés quand Jésus-Christ reviendra. La Bible dit dans Jean chapitre 17, et c'est très fort ce texte, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. » La vie éternelle est de connaître Dieu, de vivre une relation avec lui. Et ce n'est pas une religion où il faut faire ou faire ceci et ne pas faire cela. Mais c'est une relation d'amour avec un Dieu qui m'aime et qui me forme et me transforme. Et de cette relation, nous apprenons à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Donc, Jésus-Christ, lui, il est venu pour offrir, nous offrir, une vie relationnelle. Je vais conclure. Jésus-Christ est venu pour nous offrir vie éternelle, vie abondante et une vie relationnelle. Et si vous souhaitez recevoir cette vie éternelle, abondante et relationnelle que Jésus-Christ vous offre, je vous invite à demander à Dieu pardon pour vos péchés, pour tout le mal que vous avez fait envers lui et à placer votre foi en Jésus-Christ qui, lui, est mort et ressuscité. Et pour le faire, j'aimerais vous aider et je vous invite tout simplement à prier avec moi. Je vais faire une prière là maintenant et tout simplement répéter après moi ces quelques phrases que je vais citer. On peut prier maintenant. Dieu, merci d'être venu en la personne de Jésus-Christ pour donner ta vie. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait en désobéissant à ta loi, en vivant sans toi. Je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que je puisse être pardonné de tout le mal que je t'ai fait. Merci de m'accorder le pardon. Merci de ce que tu m'offres maintenant, la réconciliation avec toi. Je te suis tellement reconnaissant de ce que tu m'offres, une vie éternelle. Abondante et relationnelle. Aide-moi maintenant à marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour ce temps que nous passons et nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Seigneur, nous voulons maintenant te dire de continuer ton œuvre dans nos cœurs et que ce que nous avons entendu, ce que toi tu as accompli en Jésus-Christ ait vraiment un impact dans toutes nos relations, dans toute notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.